VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Manilakiza avec vous pour développer des points de l'actualité. D'abord en Afrique, Centrafrique, des barricades érigées par des manifestants ce week-end à Bangui ont été levées aujourd'hui. Les manifestants exigent la démission de la présidente de la transition alors que les élections prévues en octobre vont devoir être reportées une nouvelle fois. L'experte indépendante de l'ONU sur la Centrafrique, Marie-Thérèse Keita Bokoum, a déclaré à Genève craindre une guerre civile en Centrafrique suite à une recrudescence de la violence depuis le 26 de ce mois. Et Freeman Sipula est notre correspondant à Bangui. Son reportage.
Les tirs ont été plus intenses dans les quartiers nord. Plusieurs accrochages ont été signalés entre les soldats de la MINUSCA et des hommes armés difficiles à repérer. Les casques bleus appuyés par un hélicoptère de combat de la Sangari sont repoussés violemment à chaque occasion ces raids. Situation qui vient augmenter le nombre des victimes car on déplore des morts et des blessés par balles dans certains quartiers. Jusqu'en début de soirée, la situation était encore volatile et la tension loin de chuter. Dans la nuit de mardi à mercredi, les nouveaux affrontements opposent hommes armés de PK5 aux anti-balaka dans le 5e arrondissement ont fait de nouvelles victimes et d'énormes dégâts matériels. Sur le terrain, les pillages se sont poursuivis toute la nuit et même ce matin dans les locaux de certaines organisations humanitaires. La plupart des voies sont libérées, mais la circulation n'a pas encore repris. Le grand rassemblement de la société civile prévu aujourd'hui, place des martyrs, a été reporté pour éviter des débordements selon les organisateurs. Vu la dégradation du climat sécuritaire, le président du Parlement provisoire Alexandre Ferdinand Guindé a annoncé une réunion d'urgence des parlementaires ce jeudi pour statuer sur les différentes revendications, dont celle de la société civile. La société civile a formulé 11 points de revendication, parmi lesquels le redéploiement sans condition des forces armées centrafricaines et la stricte application du mandat de la MINUSCA. Par ailleurs, ces violences à Bangui ont ravivé des tensions dans certaines régions du pays. À Bombari, 3 personnes ont été tuées mardi, alors qu'à Kagabandoro, plusieurs milliers de personnes ont fui leurs habitations pour se réfugier à la base de la MINUSCA. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et puis la présidente Catherine Samba Panza est arrivée aujourd'hui à Bangui. La situation à Bangui avait contraint cette présidente intérimaire centrafricaine à interrompre sa participation à la 70e Assemblée générale de l'ONU ainsi qu'à une réunion spéciale sur son pays à New York. Au Burkina Faso, l'armée loyaliste a repris le contrôle de la situation dans la capitale. Ce matin, de nombreux soldats étaient positionnés dans plusieurs rues du quartier Ouagadougou. Le président de la transition, Michel Kafando, est attendu au camp Nabakoum 2 pour y rencontrer les militaires qui ont monté l'assaut contre les ex-putschistes de la garde présidentielle, dont le chef Gilbert Diendéré s'est réfugié dans une ambassade. Zoumana Ouanougou.
Actuellement, je suis au ministère de la Défense à quelques encablures à 50 mètres de ce qui était le camp Nabakoum 2, le camp du RSP. On attend l'arrivée du président de la transition qui doit rencontrer les militaires qui ont lancé l'assaut hier sur le camp du RSP. À partir de ce moment, certainement qu'on aura une idée, une sorte de bilan de l'assaut en fait. Donc, ce camp-là, ce ministère de la Défense, là où je suis actuellement, c'est une zone visiblement hier. Personne n'avait idée d'y être si tu n'étais pas militaire. Les militaires loyalistes continuent de ratisser pour voir si quelques éléments du RSP n'ont pas pu échapper et qui seraient dans la nature.
Où se trouve Diendéré?
Le gouvernement a fait un communiqué confirmant qu'il est dans une représentation diplomatique. Mais déjà hier, Ouaga, la rumeur a donné la précision à l'ambassade du Vatican à Ouagadougou. Et cette ambassade est pratiquement à une centaine de mètres de la présidence du Faso, le palais de Kossiam. Donc,
c'était donc les précisions de notre correspondant sur place, Zoumana Ouanougou. Comparution ce mercredi devant la Cour pénale internationale d'un chef d'un groupe islamiste malien soupçonné d'avoir dirigé la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012 au Mali. C'est un soulagement. Et le président nigérien Muhammadu Buhari va prendre en charge le portefeuille clé du pétrole au sein du gouvernement dont la composition devait être annoncée aujourd'hui. Monsieur Buhari, qui entre en fonction le 29 mai, a lancé une campagne contre la corruption en s'en prenant en priorité au géant national du pétrole. En juin, il a congédié l'intégralité du conseil d'administration de la compagnie pétrolière nationale nigériane et ordonné un audit de ses finances. En Afrique du Sud, des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés à la mi-journée dans le centre de Pretoria. Ils manifestaient contre la corruption, visant particulièrement le président Jacob Zuma et son gouvernement. À l'appel de dizaines d'organisations de la société civile, ONG, syndicats et églises, les manifestants se sont dirigés vers le siège du gouvernement. Une manifestation similaire a également eu lieu au Cap, siège du Parlement sud-africain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, première frappe aérienne russe en Syrie. L'information a été divulguée ce matin par Washington et confirmée par le Kremlin. Le Sénat russe a donné son feu vert très tôt ce matin. Les frappes semblent avoir été menées dans les environs de Homs. Salwa Jafari pour les détails.
L'intervention russe est loin d'être une surprise. Les intentions de Vladimir Poutine étaient claires depuis longtemps. Il ne lui manquait qu'une demande de Bachar al-Assad et un feu vert de son Sénat. Quelques heures à peine après l'avoir obtenu, les forces aériennes ont fait leur entrée dans l'espace syrien. On parle de frappe réussie. Les Russes disent avoir détruit des équipements militaires et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique dans la région de Homs. La question qui se pose néanmoins, l'État islamique sera-t-il le seul dans la ligne de mire ? Pavel Felgenauer, analyste militaire, explique.
Il est fort possible que les forces de l'opposition syrienne, surtout la partie islamiste comme le front al-Nusra, proche d'Al-Qaïda, soient ciblées.
Cet engagement militaire ne concerne en tout cas que des frappes aériennes, excluant ainsi, pour l'instant, l'engagement de troupes au sol. Cette accélération de l'engagement de Moscou dans le dossier syrien s'inscrit sur fond de bras de fer entre Barack Obama et son homologue russe sur le sort à réserver à Bachar al-Assad. Washington le qualifie de tyran. Moscou voit en lui un rempart contre les djihadistes du groupe État islamique.
Et les États-Unis affirmaient plus tôt que les bombardements russes ont visé les ennemis de Bachar al-Assad, l'opposition à Bachar al-Assad, et non pas l'État islamique. Et le secrétaire à la défense, Ashton Carter, est en train de s'exprimer. 70e Assemblée générale de l'ONU à New York, au programme ce mercredi. Notamment un sommet sur la paix et la sécurité dans le monde. Les détails avec notre envoyée spéciale, Tatiana Mousseau.
Bonjour, le premier événement du jour dans le ciel ici à New York, vert, blanc, rouge et noir. Les couleurs du drapeau de la Palestine flottent désormais devant le siège de l'ONU. Une résolution allant dans ce sens a été adoptée par 119 voix. Puis pour et 8 contre et 45 abstentions. C'est l'événement qui vient juste de se terminer au moment où nous parlons. Les États-Unis et Israël ont voté contre la résolution. De leur côté, les Européens y sont allés en ordre dispersé après avoir pourtant cherché à trouver une position commune. L'autre événement de ce mercredi, c'était une réunion avec des ministres des Affaires étrangères. Vous l'avez dit, cette réunion a débuté ce matin dans la chambre du Conseil de sécurité de l'ONU. Une fois de plus, le terrorisme et les conflits internationaux étaient au menu, avec spécifiquement la circulation des armes concernant notamment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a dénoncé une lenteur de la communauté internationale à faire face à la menace terroriste, faisant notamment référence à la situation que vit son pays, le Tchad, ainsi que toute la région.
C'était donc notre envoyé spécial depuis les Nations Unies, le siège des Nations Unies à New York, Tatiana Mousseau. Et pour finir ce journal, 7 personnes ont été tuées et 50 blessées ce mercredi dans le sud de la Chine dans des explosions provoquées par des colis piégés, indiquent les médias nationaux, faisant état de 15 déflagrations dans différents lieux publics. Selon la police de Liucheng, dans la région de Guangxi, des explosifs dissimulés dans des colis postaux sont à l'origine des déflagrations. Plusieurs bâtiments de la ville ont été touchés, dont une prison, un marché, un grand magasin, une gare et un hôpital, rapporte la AFP. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Je laisse la place à ma confrère Claire Morin-Gibourg pour votre émission Sahel Plus. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.